Je ne sais pas s'il y a des questions.
Oui. Moi, c'est la question du temps, en fait. C'est, parce que c'est des gens qui passent à tout de suite, on dit, mais comment ils ont le temps de faire marcher comme ça? Est-ce qu'ils organisent? Est-ce que ça doit organiser, en fait? Est-ce que leur temps, ils ont le temps de réfléchir, mais ça s'organise différemment et qu'ils doivent avoir ce temps d'évolution à la...
Merci beaucoup. Ça, en fait, c'était l'une des hypothèses qu'on avait ou des questions de recherche, je me souviens plus maintenant. C'était, ça aurait dû être le titre même de la recherche, mais on l'a changé à dernière minute. C'était comment est-ce que les grands marcheurs intègrent une heure de marche dans leur journée quotidienne ou dans leur schedule, je ne sais plus comment on dit.
Planning.
Oui. En fait, c'était en fait une des questions de départ, c'est une des raisons pourquoi mon prof était d'accord que je travaille là-dessus. Moi, j'avais côté santé, environnement en tête. Puis lui, c'était comment on s'organise. Donc, c'était central. Donc, merci pour la question. J'ai quand même y répondre. En fait, l'hypothèse... Oui, ça, c'était la question de recherche. L'hypothèse, c'était que les grands marcheurs ont des capacités, des skills... très élevé en termes d'organisation dans l'espace et dans le temps, et sont capables de planifier et d'improviser dans l'espace et dans le temps. Et c'est difficile de faire le temps et l'espace en même temps parce que le temps passe puis vous n'êtes plus au même endroit. C'est bête à dire, mais c'est super compliqué ça. Parce que si une activité où vous êtes sur place, vous pouvez régler dans le temps parce que l'espace ne bouge pas, vice versa, je pense que ça marche. Mais bref, moi, je trouve que c'est des gens extrêmement bien organisés. Alors, après, ils sont peut-être très humbles, parce que moi, je leur disais, mais attendez, c'est extraordinaire ce que vous faites. Puis eux, ils étaient, ah non, je ne trouve pas. J'ai aucun sens de l'orientation. Il y en a une qui me dit, puis on va sur la carte, je dis, mais excusez-moi, mais ce n'est pas vrai. Alors, peut-être qu'il y a une volonté de ne pas se mettre en avant, qui est peut-être très suisse, je ne sais pas. J'ai une surreprésentation de Suisse, malheureusement, très peu de personnes de nationalité étrangère, d'origine étrangère là-dedans. Mais c'était vraiment, non, on ne se met pas en avant, etc. Alors, dans les stratégies, il y a une stratégie toute bête, mais de nouveau, que je ne savais pas avant de commencer l'étude, c'est se lever plus tôt. Donc les gens, ils disaient, comme j'ai dit avant, la majorité s'était convertie, entre guillemets, ou changé de comportement dans les 2 ans qui précédaient. Et presque toutes ces personnes ont dit, je me lève plus tôt. C'est une partie de la stratégie. En fait, marcher, il faut admettre, ça prend plus de temps. Pas forcément beaucoup plus de temps. Ça, je le vois tous les jours. Si je vais aller au travail à pied, ça me met peut-être 20, 25 minutes. Et puis à vélo ou en bus, c'est 20. Donc, c'est 5 minutes de plus. Mais ces 5 minutes, il faut, quelque part, il faut se les acheter, il faut les prendre, il faut s'organiser un peu mieux, il faut partir un peu plus tôt. Donc, ça, ils le font. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? L'utilisation de cartes pour se repérer. Donc, les gens, quand ils avaient un peu plus de temps, ils allaient un peu explorer pour voir s'il y avait d'autres chemins. Les cartes téléphone, il y en avait qui avaient la carte sur le téléphone, d'autres avaient une carte papier, d'autres ni l'un ni l'autre, mais quand ils étaient à la maison, ils regardaient pour repérer des endroits. Mais en termes de stratégie, donc se lever plutôt de très bien se connaître et de connaître le terrain. Donc comme je disais, à la minute près, ils savent, moi j'en ai un là qui venait des Ains en dessus de Nyon, puis il allait à pied tous les jours le même trajet. Donc lui, c'était génial quand on regardait le GPS. Il y avait un trait juste qui était un peu plus gros que les autres. Puis une fois, il avait juste marché un peu, donc c'était drôle, ça faisait vite comme ça. Il y avait peut-être une flaque. Mais... Et puis lui, il disait, ben, moi, je sors du passage sous voie, le train, il est là, puis en fait, il s'assied toujours à la même place. En plus, doit la marche, parce que c'est plus prudent. Donc il y a des gens très, très organisés. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus olé-olé, mais le plus courant que j'ai trouvé, c'est des gens qui étaient très comme ça le matin et plus cool l'après-midi, le soir. Ça, c'était très fréquent. Donc j'avais une personne, par exemple, qui prenait le train, plusieurs même, qui prenait le train à Lausanne le matin. Pour aller à la gare de Lausanne, c'était carrément le grand axe. Donc la route principale où il y a 15 000 véhicules par jour, marcher là long. Mais il ne faut pas oublier que c'est tôt le matin. Donc il y a un peu moins de trafic. Et le soir, la même rue, elle va bonder de trafic. Puis en plus, ils ont plus de temps, ils n'ont pas de train à prendre. Donc très souvent, puis ça se voyait dans les GPS, c'était la voie rapide, désagréable entre guillemets, mais rapide et simple le matin. Et puis le soir, on revient par un endroit où soit la rue est plus sympa, moins polluée, moins bruyante, aussi, très important, la vue. Beaucoup de personnes spontanément m'ont dit bon, moi je veux la vue du lac, je veux la vue des montagnes. Les gens sont très sensibles à ça. Mais moi le matin. Mais de nouveau, j'ai un autre, il allait prendre le train à Versoix. Pour aller prendre le train, il préférait partir plus tôt pour faire un détour pour passer par le lac. Donc, ça dépend, mais c'est toujours les gens organisés qui connaissent le terrain. Oui ?
Pour revenir sur ces problèmes d'itinéraire, est-ce que vous leur avez demandé s'ils avaient modifié leur façon d'analyser leur itinéraire avec l'expérience, j'ai envie de dire, entre les premières fois où ils ont marché, puis la fois où ça devient un peu une habitude, dans la recherche d'itinéraire, dans le choix, la façon de s'organiser?
Ça, je ne sais pas vraiment. Certainement, on a dû en parler, mais j'ai pas constaté je pense que ça mûrit petit à petit, en fait. Plusieurs personnes m'ont dit qu'elles essayaient plusieurs variantes, puis qu'à un moment donné, il y a une variante qui se fixait. Donc, souvent, j'ai demandé, est-ce que vous avez un parcours bien défini ou est-ce que vous explorez? Puis très souvent, on me répondait les deux. En fait, la réponse standard, c'était ça. Et dans les GPS, ben ça c'est la réalité aussi, c'est pas ce que les gens disent, il y en avait vraiment quasiment qu'un seul, celui dont je viens de parler, qui faisait exactement la même chose chaque jour. Les autres, il y avait quand même pas mal de variations. Et ça pouvait être, tout à coup il y a un camion de poubelle, ou un autre camion qui est là, ou il y a des montres sur le trottoir, ou on se rend compte qu'on a 2 minutes d'avance ou 2 minutes de retard. Donc il y a de l'organisation, de la planification et de l'improvisation, tout le temps.
Et au niveau santé, donc ils ont tous la patate, et ceux qui ont commencé il y a que 2 ans, ils ont vraiment vu l'effet sur leur santé?
Alors moi, j'ai fait donc les mixed methods, donc quantitatif, je vous ai déjà parlé de ça, qualitatif aussi, spatial, et j'avais une quatrième partie, on m'a traité de fou, hein, quand prof principal, quand j'ai dit que je voulais faire ça, il m'a dit, mais on n'est jamais arrivé. Et effectivement, c'était très dur. Il y avait une quatrième partie qui était la partie santé et qui a fini dans les annexes, qui a failli être virée de la thèse complètement parce que c'était très difficile, tous ces gens que j'avais trouvés, de les faire passer par le bus santé. Je ne sais pas si vous connaissez le bus santé à Genève, qui est une institution extraordinaire. Mais vu que la moitié des gens venaient de Lausanne et ils n'arrivaient pas à venir à Genève pendant les heures, etc., donc c'était très compliqué. Puis plein d'autres gens ont refusé ou ça n'a pas été à quel rendez-vous. Mais le bus santé, alors il y a un bus santé sur Vaud où n'importe qui ou presque peut y aller, qui est très sympa, le BIPS, ou un BIP, je ne sais plus quoi ça s'appelle. Et le bus santé à Genève, malheureusement, tout le monde ne peut pas y aller, il faut être invité. Et le bus santé à Genève, c'est 1000 personnes par année. Un échantillon représentatif de la population, donc n'importe qui ici, vous pouvez recevoir un jour une lettre pour vous dire allez au bus santé, vous avez été sélectionné par hasard dans la population genevoise. Donc ils ont 500 hommes, 500 femmes par année qui passent là et qui ont une prise de sang, tour de taille, tour de hanche, le BMI, qu'est-ce qu'il y a encore, ben, ils regardent la glycémie, le taux de cholestérol, enfin plein de trucs. Dans la version longue, il y a même plus que ça. Il y a 3 questionnaires. Il y a questionnaire santé générale, questionnaire alimentation, questionnaire activité physique. Puis mon idée, c'était de prendre mes grands marcheurs puis de les mettre là-dedans. Puis j'avais pas besoin de contrôle de groupe témoin, vu que le groupe témoin, c'est les 1000 par année. Donc c'était, ça aussi, c'était super beau sur le papier. Et c'était extrêmement difficile. J'ai réussi à en passer à peu près 25. Donc sur le plan quantitatif, c'était un échec. C'est impossible de dire quoi que ce soit. Mais de manière générale, oui, c'est des gens plutôt en bonne santé, mais tenez-vous bien, les gens du bus santé, donc la population générale genevoise, est aussi relativement en bonne santé. C'est une bonne nouvelle. Mais donc moi, je ne peux absolument rien dire là-dessus, sur le plan quanti. Et sur le plan qualitatif, ben forcément, les gens ils sont différents les uns des autres. Mais je leur ai posé des questions sur est-ce que vous mangez 5 fruits et légumes par jour pour savoir si c'est vraiment des... Bah, les gens, hip-hop, je fais mes 10 000 pas par jour, 5 légumes, fruits et légumes, et puis je prends un procédant 3 fois par jour. Enfin, savoir si ça rentrait dans une espèce de...
Bon élève,
le syndrome du bon élève, on va dire. Puis là, en fait, oui, ils sont plutôt bon élèves, mais pas tous. Puis quelque part, il n'y a pas grand-chose à en dire. Est-ce que vous recyclez vos déchets? Oui, ils recyclent tous leurs déchets, mais so what? Mais je suis content d'avoir posé la question, parce que sinon, ça m'aurait travaillé. Ils recyclent leurs déchets, ils ne brossent pas mal les dents, ils sont plutôt en bonne santé, mais rien de spécial, quoi. Une moyenne d'âge, je ne sais plus si c'était 42 ans, 51 ou 52% de femmes. Nothing special, quoi. Puis quand on les voit, c'est pas musclore, c'est juste des gens normaux, plutôt en bonne santé, quoi. Ils ne sont pas tous filiformes, au moins de là. Oui.
Au niveau des âges, je sais pas si vous avez dit, c'était pour 42 ou même âge, mais c'est quoi, ça démarre à 20 ans, jusqu'à 80, ou c'est plutôt 50.
Très bonne question. Alors, sur le plan quanti, donc sur le plan suisse, on constate que les gens marchent beaucoup jusqu'à l'âge à peu près de 20 ans, 25 ans. Après, ça diminue, au même temps que l'utilisation des moyens motorisés augmente. Et les gens recommencent un peu à marcher après 50 ans. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais surtout les hommes, beaucoup les hommes seuls, en fait, beaucoup à partir de 50, 60 ans, il y a beaucoup d'hommes qui marchent seuls.
Les grands marcheurs, marcheuses.
Alors, c'était assez... J'ai eu de la peine à vraiment trouver des gens différents les uns des autres. Comme j'ai dit, je suis passé aussi par des moyens de recrutement parmi les gens que je connais à Genève, parmi les fonctionnaires vaudois. Donc ça, c'était plutôt des gens 40 et quelques, 50 et quelques, plutôt universitaires. Clairement, la moyenne, comment dire, au niveau éducation, était plus élevée que la moyenne.
Il n'y avait pas des maçons des...
J'en ai eu quelques-uns. Je suis content, j'ai eu des chômeurs, j'ai eu des... Mais oui, ça peut arriver à tout, bien sûr. Mais pas forcément des chômeurs très intellectuels. Hein. Pas forcément des thésards.
Vous êtes sur des travaux qui ont mal fini. Physique, lourd, hein. Je pourrais moins imaginer qu'ils marchent très longtemps.
Non, mais j'en ai quand même... Il n'y en a pas eu beaucoup, non, clairement. J'ai eu une personne qui était sage-femme et elle marchait énormément dans le cadre de son travail, mais c'était que à l'intérieur des bâtiments. Donc, en fait, c'était... pas ce qui m'intéressait, moi. Ça intéresse, c'est intéressant, oui, mais ce n'est pas ce qui m'intéressait, moi, parce qu'elle marchait très peu dans l'espace public. Et c'est clair que j'ai eu très peu de ces gens, et mon dispositif ne permet absolument pas de dire que j'en ai eu peu parce qu'il y en a peu, ou parce que je n'ai pas été capable de les trouver. Ça, je ne sais pas. Puis malheureusement, je crois que je n'ai pas vraiment fait cette analyse sur le micro-recensement, mais ça pourrait encore se faire, pour voir si de manière générale... Mais... ce qu'on a fait par contre, c'était par catégorie de revenus. Ça, on a fait. Puis on a vu que par catégorie de revenus, sauf erreur, les gens qui gagnent très peu marchent beaucoup. Après, quand ils gagnent plus, ils marchent moins. Et quand on arrive parmi les très riches, genre plus de 10 000 francs, plus de 12 000 francs par mois, ça remonte un peu. Donc, mais si je me souviens bien, entre 4 000 et 12 000 à peu près, c'est pas des changements énormes, hein. Mais vu qu'on parle de 8 millions de personnes, ça fait une différence, en fait. C'est des stats. Mais donc, les gens, y a deux choses. Donc, les gens jeunes marchent beaucoup et après, ça diminue pendant la période en fait, où ils sont quelque part le plus en forme, le plus actif, paradoxalement, ceux qui marchent le moins et utilisent le plus la voiture. Donc, c'est entre 30 et 60. Et pareil un peu pour le... les gens donc, qui gagnent peu, c'est un peu la même courbe en fait, marchent beaucoup. Après, quand ils gagnent un peu plus, ils vont faire un peu moins. Puis comme j'ai dit, ça remonte un peu parmi les très riches, peut-être qui, je sais pas, qui peut-être marchent parce qu'ils peuvent.
Je disais au départ, donc, de l'entendre sur ces marcheurs pour inciter les autres à marcher plus. Je me demandais si au départ, la thèse, elle est quand même l'idée d'inciter les gens à marcher plus.
Première
question, dans ce cas-là, si c'est pas eux, par quel moyen, comment
on... Oui, alors ça, c'est la conclusion de ma thèse, tout à la fin. C'est en gros, c'est pas ces personnes-là qui vont faire la révolution, mais on peut s'en inspirer, en fait. C'est ça l'idée.
Et vous seriez un médiateur, en fait, entre ces gens et puis un des médiateurs.
Et vous
aussi,
etc. Oui, oui. Monsieur ?
Moi, c'est d'abord merci, parce que moi, je suis un habitué du monde de discussion, beaucoup de travail sur la mobilité douce. Et je partage complètement ce que tu as dit à l'introduction. Quand on parle de mobilité douce, on glisse, en tout cas là où je me trouve moi, on glisse souvent et très rapidement sur la question du vélo. Mm-hmm. On parle même des autoroutes de vélo, des choses comme ça. Moi, je ne savais pas, je ne suis pas un grand marcheur. Je n'aurais pensé que pour faire une thèse, mais c'est très, très bien, je suis très content. Par contre, j'ai pas perdu. J'aime pas vélo, donc j'ai jamais utilisé le vélo depuis 40 ans, plus que 40 ans que je suis jeune. Par contre, j'utilise le transport public, évidemment, donc c'est la marche et le transport public. Moi, comme je suis urbaniste, je pense que quand tu dis 10 000 pas, je pense que c'est quelque chose de l'ordre de 6 km et demi.
Ouais, ouais.
Le Corbusier disait que l'homme, mais lui, il était de grande taille, il fait 5 km dans une heure. Moi, je pense que je suis pas plus modeste, on fait 4 km et demi, 4 km dans une heure. Mais c'est facile à faire. Et moi, je pense que peut-être, comme tu disais, c'est pas peut-être pas nécessaire de 7 jours sur 7 de faire des 10 pas, mais si on dit la moitié d'une semaine faire les 10 000 pas, c'est l'équivalent de faire tous les jours 5 000 pas. Alors, moi, il me semble, et je ne pense pas des programmes marcheurs, oui, que les 5 000 pas, je le fais, mais sans me faire cela. Moi, je viens, j'habite en face du muséum, je viens ici à pied, je retourne. Ce matin, j'ajoute la promenade que j'ai faite. Bon, c'est vrai que je suis à la retraite. Mais je dis que quand je travaillais, je partais toujours au même endroit, devant le muséum. J'allais quasi à la pointe de la jonction, je travaillais. Voilà. Le matin et le soir. Évidemment qu'à midi, soit je marchais sur place, soit je prenais les transports si j'allais à la maison. Mais de faire, pas les 10 000 pas, mais de faire la moitié, donc pas les marcheurs, mais le demi-marcheur, moi je pense qu'il y a beaucoup de monde qui fait ça. Et qu'est-ce qui empêche de faire que l'on pas les marcheurs en milieu général? C'est notamment la question de la peur du trafic, automobile et les vélos qu'on raconte souvent, et puis la question de la pollution de l'air. Et quand tu parles de la pollution de l'air et de la sensibilité des voies, de la question de la pollution de l'air, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année passée, il y a eu une initiative qui a abouti assez facilement. Et moi, je me suis beaucoup impliqué à prendre des signatures. Et j'aime bien parler avec les gens, mais tout le monde dit que c'est insupportable. Qu'il ait vu, qu'il marchait dans la rue.
Quelle initiative?
Il y a eu une initiative sur la qualité de l'air. De mettre la qualité de l'air de Genève, c'est tout bête, une initiative qui demande que les normes fédérales sur la qualité de l'air soient respectées. C'est pas la révolution. Simplement que les normes fédérales, qui datent d'il y a 20 ans, soient respectées, et quand la norme n'est pas respectée, les autorités informent la population.
Mais Romain,
il faut juste dire que la qualité de l'air, c'est un des éléments qui empêchent certaines personnes.
Alors peut-être.
Plus à pied.
Oui, alors moi j'en suis convaincu, hein, mais.
Non, mais je sais pas pourquoi.
Mais les gens que j'ai rencontrés, eux, ne le sont pas tellement. Et de nouveau, j'ai étudié les gens qui marchent quand même, malgré tout ça. Donc c'est des sortes de pionniers, je pense à utiliser ce terme aussi. Mais effectivement, peut-être qu'il y en a plein qui ne marchent pas à cause de ce que tu dis, c'est tout à fait possible. Oui. Mais là, j'ai étudié des gens qui marchent quand même et qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas spécialement dérangés par ça. Alors, il y en a qui ont des petites stratégies. Par exemple, s'il y a des voitures arrêtées, un embouteillage qui traverse, simplement, tu retiens ta respiration au moment où tu traverses. C'est un truc tout bête. Bon, moi qui connais un petit peu la médecine environnementale, si tu aspires des gaz d'échappement, le problème, c'est qu'après, les toxines vont aller dans ton sang et tu vas être empoisonné en fait pendant longtemps. C'est pas juste tu passes là, tu respires là, puis t'as mal entre guillemets, puis après c'est fini. C'est vraiment quelque chose que tu transportes en toi après. Donc ça c'est tout bête, il suffit d'y penser, mais la plupart des gens n'y pensent pas. Et eux ils savaient rien de tout ça. Alors vraiment il n'y en a aucun qui pense à ça. Par contre, dit effectivement, si on traverse un abribus enfumé, ben, on va peut-être juste pas respirer à ce moment-là, on marche vite. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de penser à ça, quand vous traversez la rue, de pas aspirer au moment où vous traversez. C'est un truc tout bête, mais je peux vous dire, c'est... votre santé vous dira merci. Mais ça, c'est un petit truc à moi, et j'ai trouvé peut-être, ouais, qu'il y en avait quelques-uns qui faisaient ça, mais la plupart, pas du tout, la plupart, ils s'en occupent pas. Mais voilà, j'ai parlé avec ceux qui marchent malgré les conditions difficiles. Oui.
Donc, ça s'est traduit pour des propositions
oui.
Par rapport à l'urbanisme, je dirais.
Oui.
Est-ce qu'il y a des pistes?
Tout à fait. Donc, je peux peut-être réduire un peu les trois questions, si vous permettez. Aussi, dans la conclusion. D'ailleurs, ma thèse, elle est disponible gratuitement sur le site de l'EPFL. Vous pouvez télécharger. Je n'allais peut-être pas tout lire, mais si vous allez à la fin, dans les conclusions, il y a des propositions. Et une des propositions, c'est justement de faire des autoroutes piétonnes. Parce qu'on parle très sérieusement, on n'a pas fait que parler, hein. Les autoroutes pour voitures, elles existent. Hein. J'en ai eu, en Genève et Lausanne, elles datent de 64. Hein. Mais c'est vraiment des endroits, il n'y a pas de piétons, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de train. C'est vraiment pour les voitures. Et puis s'il faut passer quelque part, on passe dessus, dessous. C'est bien fait, hein. Vous avez déjà vu? Non, mais c'est incroyable. Imaginez juste ça. Et pourquoi ils ont mis ça en Genève et Lausanne, pas entre, je sais pas moi, un petit village au bord du lac et puis un endroit dans le Jura Vaudois où il n'y a personne. Non, ils ont mis ça vraiment entre les deux principales villes de la région. Je suis beaucoup moins drôle dans ma thèse, mais c'est logique. Alors, ce que je dis moi, c'est qu'il faut faire la même chose pour les piétons, c'est-à-dire regarder les générateurs de déplacements piétons actuels. En fait, c'est ça le fond. Si je rattache ce que j'ai fait pendant la thèse avec l'avenir, c'est regarder l'actuel. Ok, il y a plein de gens qui ne marchent pas pour plein de raisons, ok. Mais regardez ceux qui marchent déjà, regardons ce qu'ils font et mettons des choses pour leur faciliter la vie ou au moins qu'ils survivent peut-être. Parce que de marcher dans des conditions comme ça, ce n'est pas correct. Donc ce que j'ai remarqué de très drôle, c'est qu'à Genève et Lausanne, il y a en gros le même agencement entre la gare principale, le centre-ville, disons, ancien, donc les rues basses ou la rue de Bourg, et le CHUV ou le HUG. Donc en fait, et j'ai vu, j'ai pas eu le temps de regarder, mais il y a plein de villes où c'est comme ça, à Bordeaux c'est aussi comme ça, j'étais en conférence, j'ai regardé. En fait, il y a plein d'endroits où il y a, je sais pas pourquoi, la gare, le centre-ville, le principal hôpital. Et on parle pas de gens qui vont à l'hôpital parce qu'ils sont hyper malades. C'est un endroit qui génère énormément de trafic piéton parce qu'il y a énormément de gens qui travaillent là-bas, il y a les visites... Il y a plein de gens qui vivent là-bas. Donc voilà, c'est juste un générateur identifiable d'activité humaine et donc de marche. Et en fait, ce que je propose, c'est qu'on mette des autoroutes piétonnes dans les endroits où il y a le plus de marcheurs. Et ça, on peut l'identifier par le micro-recensement tout le temps. Et en l'occurrence, c'est le cas. Donc les gens, la grosse patate où les gens marchent, en gros, ça va de Cornavin vers les rues basses et un petit peu en direction de Plainpalais où il y a l'hôpital et d'autres choses. Et pareil pour Lausanne. Donc j'ai dit, ben, c'est là qu'il faut le mettre. Alors, la logique actuelle, c'est on met là où il y a de la place et là où on peut et là où on ne dérange personne. Mais comme j'ai dit, si ça avait fait ça avec l'autoroute, il l'aurait mise entre Prangin et Saint-Jean-Pont-de-Jura.
Du coup, dans une expo, les gens imaginent comment vous visualiseriez ça? Comme une espèce de rampe qui fait des choses comme ça.
Peut-être. Ouais, j'ai réfléchi à ça. Alors à Lausanne, c'est peut-être mieux. Ils ont l'habitude de la pente et des trucs. Mais ici, j'ai pensé. Alors, j'ai pas pensé assez loin. C'est peut-être vous qui allez le faire. Ce serait chouette. Vous êtes plus peut-être là-dedans. Mais moi, je me suis dit si déjà avec du marquage et des feux prioritaires, on pourrait déjà faire pas mal de choses. Il y a peut-être des croisements inévitables, alors il faut les réduire le plus possible et les prioriser, mais il y a peut-être des endroits où il faut faire des tunnels et des passages. À Lausanne, il y en a plein.
Une onde verte pour piétons.
Oui, oui. Une onde verte pour piétons. Tout à fait. Tout à fait.
Tu marches au rythme du pas. Ah, c'est chaque année, il y a un rythme.
Bon.
Au rythme, si vous proposez comme solution.
Disons, la partie.
Oui. Moi, ça n'a absolument rien à voir avec l'idée de la marche. Je sais pas pour moi, si je marche, c'est pour pouvoir me balader, je tourne à gauche, et justement déambuler, ouais. d'avoir les autoroutes. Mais ça sera tout droit avec 50 personnes autour de moi qui croient.
Je me suis dit, si tu hésites à prendre le bus ou à pied,
c'est juste
le
temps de la liberté individuelle de marcher par là.
Mais vous n'êtes pas obligé d'être dessus. Est-ce qu'il y a une autoroute Genève-Lausanne? Est-ce que pour autant il n'y a pas de voiture ailleurs? Non.
C'est un peu comme les voies vertes, c'est les vélos.
C'est ça.
Ils empruntent pour tracer.
Mais c'est ça.
Puis les autres, ils vont un peu mais il y aura un moment qui.
Je dirais au moins sur les zones prioritaires. Je dirais quand je sors de la gare Cornavant, puis moi j'habitais dans le canton de Vaud avant, je prenais le train tous les matins. En sortant de cette gare, mais les gens qui s'entassent dans les bus juste pour aller à Bel-Air. Ou après, les gens qui essayent de marcher, mais on est, je ne sais pas combien, c'est un trottoir qui est minuscule. Puis évidemment, les pylônes, il faut qu'ils soient dans le trottoir, ils ne peuvent pas être ailleurs. C'est problématique, je veux dire. Même sans parler de l'hôpital, si on pouvait au moins avoir un parcours prioritaire. Il n'y a pas de fléchage. Et ça, j'en parle dans ma thèse. Hein. Donc, si on va à la montagne, où il n'y a pas un Lulu, il n'y a personne, on vous dit, flèche jaune, vous pouvez aller à l'endroit, il n'y a peut-être personne qui habite non plus. Par le bas, c'est 25 minutes, par le haut, c'est 45 minutes. Et puis vous allez, après vous ne savez plus si c'est le haut, le bas, vous regardez le prochain panneau. Ah là, c'est 15 minutes, là vous pouvez revenir par là, c'est 35 minutes. Puis vous, si vous n'êtes pas sûr, il y a tout à coup un losange, maintenant il y a des trucs blancs, rouges, machin. Pourquoi on n'a pas ça en ville? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Et ça, alors je suis heureusement pas le seul, je sais que la ville de Lausanne est en discussion avec. L'association qui gère ces trucs-là, Vander Schweiz, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais on espère y arriver. Ça, c'est vraiment un vrai problème. Moi, quand je sors de la gare, j'ai envie qu'on me dise, rue basse, 10 minutes par là. Puis si je me perds en route, que je ne suis pas obligé de la suivre, la flèche. Je suis d'accord, hein, je peux déambuler ce que je veux. Mais au moins que je puisse le faire. Oui. Oui. Alors, il y a eu une étude de mobilité piétonne. Ils ont pris 10 systèmes en Suisse. Déjà, le fait même qu'il y en ait 10, je trouve ça un problème. Chaque ville fait son propre truc. Et en général, il n'y a pas les minutes. Et ce que j'ai trouvé super important, on parlait avant de portail d'entrée dans le comportement. J'ai eu deux trucs, ça me donne presque des frissons, je trouve ça génial. C'est une personne qui marchait jamais en ville, mais qui allait faire des randonnées en montagne. Puis un jour, elle s'est dit, tiens, mais je marche beaucoup à la montagne, mais je pourrais un jour marcher en ville, je ne sais plus pourquoi, c'est eu un déclencheur ou juste une réalisation. Et le contraire, quelqu'un qui ne marchait jamais a commencé à marcher en ville, et après elle s'est dit, ben, tiens, je pourrais aller marcher en montagne. Donc en fait, c'était des sortes de... Il y a des portes, des communications, puis là je me dis, c'est une raison de plus pour utiliser les mêmes flèches. Parce que si on sort de la gare, puis on voit Juve... 20 minutes par là, 25 par là, mais ça grimpe plus, je ne sais pas. Il n'y a pas l'info. Il y a tout plein de panneaux pour les voitures. Quand il y a un panneau pour les piétons, en général, ils ont un dessin de cathédrale, puis une flèche, mais tu ne sais pas par où passer. De toute façon, la cathédrale, en général, tu la vois. Mais... tu ne sais pas par où passer, tu ne sais pas combien de temps ça prend, tu ne sais pas s'il y a des escaliers. Il y a des endroits à la montagne, dis s'il y a des escaliers. Pourquoi pas en ville? Oui.
En parlant de la continuité piétonne, moi je fais une petite carte. Après qu'on a voté la loi sur la mobilité équilibrée,
oui.
Voilà, il y a 2 ans et demi, il y a seulement la territoire de la ville de Genève, pas canton.
Oui.
Il y a au moins 20 places qui s'appellent places, et de facto, c'est des carrefours. Où c'est des parkings, où c'est des choses très très difficiles à traverser. Une
oui.
place, si vous allez en Italie, une place, vous trouvez des gens qui se promènent sur la place.
Oui.
Moi, je me demande, pour le touriste qui arrive à Genève, il dit, je veux aller à la place des Olives. Moi-même, je ne sais pas expliquer où c'est la place des Olives. C'est un carrefour de voilà, de
c'est pas la carte de visite idéale.
Non, mais franchement, il suffirait de faire quelque chose dans ce sens-là, au moins certaines places, de les faire retourner. Des places.
Alors, là où je suis d'accord sur le fond, évidemment, mais moi, ce que j'aime bien avec mon approche, parce que j'ai aussi une autre casquette J'étais très longtemps au comité de l'association Transport et Environnement, donc j'ai assez l'habitude quand même des conflits un peu pro-voiture, anti-voiture et tout. Là, ce que j'ai envie de faire avec les piétons, c'est pas du tout anti-voiture. C'est vraiment dire, là, c'est prioritaire pour les piétons, donc il faut qu'on soit prioritaire là-dessus. Et les voitures s'adaptent. Les voitures passent ailleurs, on a le droit d'avoir une voiture. Libre choix des moyens de transport, ça a été voté. Évidemment, j'ai lutté contre, mais il faut admettre des fois quand on perd des choses. Et en fait, ne pas être dans un discours systématique anti-voiture, mais dire il y a des endroits, comme eux, ils ont leur auto, il y a des endroits où les piétons doivent être prioritaires. Mais sortir aussi de cette idée, c'est l'ensemble du centre-ville, parce que c'est tellement vague que finalement, c'est rien et c'est nulle part. Mais de dire il y a vraiment des parcours prioritaires. Et comme j'ai dit, il y a des gens qui travaillent là-dessus aussi, à Genève d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui s'appelle Giuliano Boggini qui travaille là-dessus, il a plein d'idées. Mais de nouveau, c'est quelque chose qui est fait pour les voitures depuis longtemps, un peu pour les bus, après les vélos, puis évidemment les piétons viennent en dernier quand ils arrivent. Mais je pense, pour moi, l'avenir, il est là. Déjà, ne serait-ce qu'un seul parcours prioritaire. Commencer par un. Parce que quand on commence à faire des cartes avec 15 000 machins, il n'y a jamais rien qui se passe. Et pour moi, d'après ce que j'ai vu, et d'après les cartes, d'après quand même des données officielles, ce parcours-là, à mon avis, doit être prioritaire. Donc, gare, centre-ville, éventuellement hôpital. Ou derrière, ça se discute peut-être un peu plus.
La zone juste devant la gare Grand Nord, qui est vraiment mal fichue, mais c'est pas une zone prioritaire pour les piétons. Les piétons, ils y vont,
oui.
Et puis tout le monde s'arrête devant.
Oui, oui, c'est ça.
Mais c'est ça. C'est un là. Mais je sais pas si c'est dangereux, c'est bien. C'est...
Alors en fait.
Oui, j'ai un peu, c'est parfois. Mais non, justement, j'ai un peu. Il y a des piétons. Alors il y en a qui regardent, il y en a qui vont. Et puis les gens s'arrêtent.
Alors en fait. Souvent, ce qui est perçu, ce qui est perceptible comme dangereux est moins dangereux que ce qui a l'air d'être sûr. Les contresens cyclistes, par exemple. Tout le monde était sûr que ça allait être une hécatombe de cyclistes. Puis en fait, les gens, ils arrivent l'un en face de l'autre, à part deux, trois sauvages, il y a quand même les 99% des gens, ils sont corrects, ils ralentissent. Même s'ils n'ont pas envie, c'est le réflexe. Donc, à ma connaissance, ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'accident, mais il y en a eu peu. Et la plupart relativement pas grave. Et c'est une zone 20, effectivement, donc priorité piéton. Et de toute façon, il y a un projet pour refaire complètement la gare, ça vous savez. Enfin, devant la gare, il y a un projet pour refaire complètement. Ils vont virer les bus, les taxis, ils vont virer à peu près tout le monde. Ça, c'est prévu.
Mais par rapport à la priorité sur les piétons, déjà, il y a un système qui est révélateur du peu de cas qu'on fait des piétons. C'est que c'est nous qui devons appuyer sur un bouton pour demander l'autorisation de traverser. C'est-à-dire que les voitures s'arrêtent. Déjà, si on inverse ça, on a tout de suite.
On peut me lancer là-dessus. Moi, j'ai un avis très clair là-dessus. Pour moi, si on appuie, ça doit passer au vert directement pour les piétons.
Déjà.
Si c'est un système de phase qui tient compte des piétons seulement quand on appuie, ça pour moi c'est pas acceptable, parce qu'en fait quelque part c'est à l'avantage des automobilistes tout le temps que les piétons sont pas là, et en fait ça devient équitable seulement quand le piéton est là, donc en fait sur l'ensemble de la journée c'est complètement inéquitable. Mais en fait la plupart, il faut bien comprendre que la voiture elle est pour eux, c'est beaucoup moins grave d'attendre et c'est beaucoup moins grave de faire un détour que pour un piéton. De manière générale, tous ces systèmes pénalisent les modes doux davantage que les modes plus rapides. Ça, c'est d'ailleurs, on sait très bien, quand on est à vélo, puis on rentre dans un petit chemin, puis on se rend compte que c'est un cul-de-sac, on revient, on est embêté. Mais quand vous allez à pied, dans un dédale de villa, puis vous vous rendez compte qu'à moins de vous faire attaquer par un bulldog, il faut revenir en arrière, c'est plus que pénalisant. C'est vraiment, on est dégoûté, quoi. Donc, les voitures peuvent faire des détours, et je pense qu'on peut utiliser ça pour faire justement ces parcours piétons prioritaires.
J'ai vu une étude, ils proposaient des trottoirs roulants comme des tapis roulants pour le futur, mais qu'est-ce que vous pensez de ça?
Moi, j'aime pas tellement. Mais faut jamais dire jamais, moi je suis pas contre la technologie. Ce que je peux dire, c'est que dans mon expérience, parce que là j'ai passé en fait 6 ans en tout, 6 ans et demi, dans un labo qui traitait de transport, c'est que quasiment je dis bien quasiment toutes les nouveautés, en fait, sont des produits un peu de niche. C'est-à-dire, si ça a énormément de succès, ça va grappiller 1 ou 2% des parts modales. Même le vélo électrique, qui est assistance électrique, qui est un truc absolument extraordinaire, c'est très minoritaire en termes de parts de marché. Quand vous comparez à la voiture, à la marche, au transport public, même au vélo, c'est peu. Et donc, la trottinette, c'est peu. La télécabine, bon, ils ont décidé de ne pas faire à Genève, mais... Enfin, tous ces modes, il y en a plein. Alors ça, c'est une caractéristique de la modernité. Il y en a plein qui apparaissent, mais ça reste des petites choses. Ce n'est pas des choses révolutionnaires. Donc, à ce niveau-là, je pense que la marche, elle peut être un mythe plus révolutionnaire, parce qu'elle peut, augmenter, elle peut être organisée autrement. Et ça, à mon avis, il y a un réservoir, il y a un potentiel plus fort. Un autre exemple, c'est les vélos, ça revient à l'esprit, c'est les véhicules automatiques, donc les véhicules sans chauffeur. Ça, c'est un autre truc où j'ai même été dans un projet européen là-dessus, où on avait à l'EPFL des navettes qui se baladaient, je ne sais pas si vous êtes allé voir, on peut avoir 8-9 personnes. En l'occurrence, il y a une sorte de... Vous avez vu ça?
Oui, j'ai jamais.
Où ça? Mais tu peux être t'asseoir ou pas?
Oui.
Ok. Ouais. D'accord, donc il y en a dans différentes villes, on a fait un essai à l'EPFL, mais c'est des tout petits pourcentages. Bon, j'ai rien contre, mais c'est de nouveau, si on met un tapis roulant, pourquoi pas un endroit où ça a du sens, mais c'est pas ça qui va changer la ville, hein, madame.
Pour revenir à la marche, il semblerait que c'est plus pollué dans une voiture qu'à l'extérieur.
Oui, alors.
Marchons.
Oui, de manière générale, oui. Moi, je suis extrêmement sensible. La gorge, d'ailleurs. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit, est-ce qu'on peut aller tout de suite? En fait, il y a eu une étude. Je n'ai jamais réussi à trouver l'étude fondamentale. J'ai vu que des rapports dessus qui a été faite. Je ne sais plus si c'est à Lyon ou à Paris, qui a été commandée par la RATP. Et puis, ils ont apparemment mesuré le taux de pollution dans différents véhicules. Et il y avait clairement une espèce de hit-parade, si on veut. C'est dans la voiture que c'est le plus pollué. Ensuite, je crois les transports publics. Ensuite, le vélo. Et en dernier, le piéton. Mais évidemment, c'est des moyennes. En fait, si vous marchez... Là, il y a pas mal de bises en ce moment. D'ailleurs, la bise, c'est vraiment avant 2000 ans, ici. Si vous traversez le pont du Mont-Blanc comme piéton, en amont ou en aval, vous allez avaler une quantité de pollution complètement différente. Et ça, la plupart des gens ne se rendent pas compte. Il y a un discours qui est resté un peu depuis les années 50, les époques des grands smogs de Londres, ou les années 60, les grands smogs de Los Angeles, etc., où les gens ont enregistré qu'il y a une espèce de nuage de pollution sur la ville. Ce n'est pas tout à fait faux. Il y a une partie de la pollution qui est un peu régionale ou suprarégionale. Il y en a même quelques pourcents qui viennent de Chine, d'Afrique, de je ne sais pas où, qui se baladent vraiment sur des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres. Mais tout ça n'empêche pas qu'il y a une proportion très importante de la pollution qui est micro-locale. Comme je dis, si vous tenez derrière la voiture ou devant, ou si vous êtes en amont, en aval du pont, vous allez prendre énormément de pollution, en plus ou en moins. Et ça, c'est clair, tous les chiffres le disent. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'ai mis ça dans ma thèse, j'ai cité un papier qui venait de sortir, donc je n'avais pas connaissance au début de ma thèse. J'ai mis ça dans la discussion, la conclusion. Et quelques semaines après, quelques mois après, je me suis trouvé dans une conférence, d'ailleurs, je crois que c'était à Bordeaux. Et à côté de moi, il y avait l'auteur de ce travail-là, un jeune médecin qui était de Londres. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des sortes de sacs à dos qui enregistrent toute la pollution sur des gens. Puis ils ont envoyé se balader à Hyde Park, qui est donc un énorme parc dans Londres, dans le centre, et à Oxford Street, qui est juste à côté, je crois que c'est genre moins de 500 mètres. Et Oxford Street, en plus, ce qui est drôle, c'est que, santé, c'est qu'il n'y a pas de voiture sur Oxford Street, il n'y a que des taxis et des bus. Donc en fait, il n'y a que du diesel. Donc c'est un endroit où il y a plein de particules fines, mais il y a très peu des autres polluants, voitures et motos. Et en fait, ils ont vu que sur ces très courtes distances, ça changeait complètement. Les gens qui baladaient dans le parc, pas qu'il y avait zéro pollution, mais ça atteignait absolument pas les niveaux dangereux. Il y a toujours un fond, mais qui est presque négligeable, faut le dire. Et ils arrivaient à Oxford Street, et puis c'était bing, énorme. Donc la pollution change vraiment sur des espaces, des distances très courtes. Et ça, c'est important. Et moi, je le savais parce que j'avais étudié ça, c'était un peu mon domaine, mais les grands marcheurs que j'ai interrogés, ils ne savaient absolument pas. Et puis, la plupart, ils ne s'intéressaient pas à ça. Ils disaient, oui, j'aimerais mieux me balader dans une zone verte, mais sans plus.
Comment se fait-il que dans les statistiques qu'on voit dans les journaux, il semble qu'il y a peu de position, c'est toujours...
Ils ont dépassé la station de mesure.
Alors, madame, pardon, je ne sais pas si tout le monde a entendu. Donc, madame, vous me demandez si dans les journaux, on dit qu'il y a relativement peu de pollution.
On voit toujours peu, pratiquement.
Oui, alors. Oui, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la moyenne. Et évidemment, quand vous faites une moyenne, il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de circulation la nuit. Donc, moi, ça m'arrive si je rentre tard, je sais que je peux me balader au milieu de la rue quasiment partout. J'aime pas partout, quasiment partout. D'ailleurs, j'aime bien. La circulation, elle est assez restreinte dans beaucoup de rues, un peu aux pointes. Et il y a plein d'autres choses. Il y a aussi... Comment dire ça ? Il y a une tendance, même parmi les professionnels, à se focaliser sur la moyenne. Il y a encore un petit peu cette idée du nuage. Alors, ils ont plein de capteurs à Genève. Ils font très bien leur boulot, ça, il faut reconnaître. Ils ont des grands professionnels au niveau de l'analyse de la qualité de l'air. Ils ont des stations fixes, des stations mobiles, mais ils ont surtout des sortes de micro-stations qui mettent tous les kilomètres carrés. Donc, en fait, il y en a... combien ? Il y a combien de kilomètres carrés à Genève ? Plus d'une centaine, quoi. Entre 100 et 200, je ne sais plus. Et avec ça, ils font une carte. C'est 270, je ne sais plus. Ou 170, je ne sais plus. Mais peu importe, mais juste pour dire qu'ils analysent tout ça. Puis sur la moyenne, il y a peu de pollution. Comme j'ai dit avant, c'est si vous êtes à côté du camion ou vous êtes en aval du point de vue du vent d'un bouchon, ben, c'est là que vous prenez infiniment plus de pollution. Comme ça, vous pourriez être à 30 mètres de là dans le parc. C'est complètement différent. Donc, en fait, toute cette modélisation qui est très bien faite, très pro, très intelligente et tout, elle ne tient pas compte de ces choses-là et puis elle ne peut pas en tenir compte. Et l'autre chose, c'est que le taux de pollution est réellement en train de diminuer à Genève. Ça, c'est sûr. Alors, moi, j'ai eu des infos, apparemment, qui n'ont pas encore été publiées, mais déjà, les situations précédentes, il y avait déjà une diminution. Je peux vous dire qu'il est encore en train de diminuer. Donc, il y a des progrès qui sont dus à déjà le progrès des moteurs, progrès au niveau des carburants. Donc, il y a des progrès techniques à ce niveau-là. Et puis, moi, je trouve une invention fabuleuse, c'est les moteurs qui s'arrêtent à l'arrêt automatiquement. Et ça devrait devenir obligatoire parce que les voitures passent tellement de temps à l'arrêt en ville, soit dans les bouchons, soit à des feux, que je trouve qu'il faudrait assez rapidement rendre ça obligatoire puis virer les autres parce que c'est vraiment du gaspillage, ça, c'est vraiment de la pollution pour rien.
Pardon ? Sauf que les voitures encombrent beaucoup. Ça prend beaucoup de place.
C'est sûr, c'est un peu un autre sujet, mais ça encombre, c'est sûr, ouais. Et puis, n'oublions pas que chaque voiture reste immobile au moins 23 heures sur 24, enfin en moyenne. Ouais.
Ça existe des moteurs qui ne passent pas, les moteurs s'arrêtent.
Vous n'avez pas vu ?
Non,
il y en a de plus en plus à Genève. Pardon ?
Non,
vous appuyez sur la pédale, ça se rallume. Presque tous les taxis, bon, pas tous, mais la majorité des taxis sont comme ça maintenant. Pardon ? Il faut s'intéresser aux voitures un peu. Alors, certaines sont hybrides, donc à peu près la moitié, un peu plus de la moitié des taxis, les taxis sont hybrides. Et ont ces systèmes. Mais il y a des voitures qui ne sont pas hybrides du tout, ce sont des voitures à essence parfaitement normales, mais ça s'éteint tout seul. C'est en train de devenir mainstream, en train de devenir normal. Mais ce qu'on attendrait, c'est peut-être une décision politique qui dise, ben maintenant les gars, vous avez 4 ans pour vous mettre en conformité, puis après, soit vous ne conduisez plus du tout, soit vous ne conduisez plus en ville. Ça va peut-être arriver. Monsieur. Ouais.
Moi, j'ai mal au pied. Je voulais couper la circulation automobile. Tout ça. Je prends un exemple. Qui se souvient d'un aménagement, à mon avis, réussi ? Qui se souvient, il y a 15-20 ans, l'espace devant le village cantonal,
il y a les cinq rues, grand trafic, un grand parking. Aujourd'hui, il y a le petit parc des chômeurs. Hein? La circulation n'a pas été coupée, elle a été juste hiérarchisée, on peut accéder, et en même temps, il y a des enfants qui jouent dans le parc. Je ne dis pas que la place des Olives, on peut voir des enfants jouer, mais il y a des solutions, il y a des solutions.
Alors moi, ce qui me désole avec ça, d'une part, je suis désolé pour moi, c'est une demi-réussite, mais aussi un demi-échec. Moi, j'aime bien le parc. Mais chaque fois que je vais à l'hôpital, en fait, il faut traverser deux rues, il faut appuyer sur un bouton, il faut attendre. Moi je ne suis pas correct. Moi, je ne suis pas normal déjà qu'il y ait une rue devant. C'est presque la folie, ce truc-là.
C'était prévu dans la télé.
Oui, non, je sais. Mais à part ça, avant, la rue passait dessous. Je trouvais quand même mieux qu'on puisse passer directement. Mais je vais peut-être dire autre chose, si je peux relier ça à ce qu'on a dit avant au sujet de la place Cornavant. Le problème, c'est que les aménagements pour piétons sont toujours localisés, ils n'ont pas intégré la notion de déplacement. C'est comme si le piéton ne se déplaçait jamais. Donc là, ils disent qu'il y a un super parc, il y a l'entrée de l'hôpital, mais est-ce qu'ils ont réellement pensé du passage d'un à l'autre? Déjà, l'impression que non. Et même pour arriver au parc depuis un côté, c'est très bien, c'est vaguement piéton vers le restaurant, le platane et tout ça. Mais si vous voulez traverser la rue Lombard, c'est une des pires rues de Genève. Autant au niveau de la pollution qu'au niveau organisation, à pied, à vélo, chaque fois, je me dis, bon, je suis près de l'hôpital s'il m'arrive un truc, mais c'est catastrophique. Moi, je vous dis, moi, j'habite aux grottes, moi, je vis assez bien, mais quand je vis sur la rive gauche, après un quart d'heure, j'ai mal à la gorge. Mais que ce soit rive, plein palais, hôpital, moi, je suis très sensible, j'admets, mais alors, ici, j'arrive à me balader dans des endroits où soit il y a peu de voitures, soit il n'y en a pas. Mais quand j'arrive dans ces endroits-là, comme la rue Lombard, mais comment on fait? C'est terrible. Et donc, quel que soit l'aménagement réussi ou pas, devant l'hôpital ou devant la gare, comment est-ce qu'on va de l'un à l'autre? Ça, il y a eu un plan piéton de la ville de Genève il y a 20 ans, ils ont simplement fait une carte, ils ont mis des flèches, ils ont reçu un prix. Ben, tant mieux, ben, ils ont abaissé des trottoirs quand même, donc tu pourrais aller plus facilement. Mais il n'y avait rien d'autre, il n'y a pas encore l'intégration du fait qu'on peut marcher sur une certaine distance. Et ça, c'est vraiment une révolution dans la tête des gens qui doit se faire. Et c'est une révolution qui est évidemment, j'aurais pu commencer par ça, revenir en arrière. Parce que, de nouveau, je suis biologiste et je me suis intéressé à l'être humain. Donc, nous sommes des marcheurs comme espèce. On pourrait s'appeler Homo ambulans ou je ne sais pas comment. Hein? Oui, alors on est debout, c'est vrai. Alors ce qui est intéressant avec la position debout, c'est que du point de vue énergétique, on est très efficace en marchant, on dépense finalement peu de calories pour avancer, mais pour courir, on est très mauvais. Et à quatre pattes, on est meilleur pour courir, mais moins bon pour marcher. Je ne sais plus exactement pourquoi, mais il y a des études qui montrent ça, ils analysent tout ce qui rentre, tout ce qui sort, etc. Alors, ça, c'est une chose. Après, on regarde les populations de chasseurs-cueilleurs. Nous sommes des chasseurs-cueilleurs sur le plan génétique. On n'a pas changé, on ne peut pas se leurrer, quasiment pas. On digère peut-être un peu mieux le lait, mais c'est à peu près tout. Quand on regarde les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui, les rares qui restent dans des conditions à peu près naturelles, et on regarde les chasseurs-cueilleurs historiques, parce qu'on a pas mal d'évidence par l'archéologie, on voit que c'est des gens qui faisaient 10, 15, 20 000 pas par jour. Pas tous les jours, clairement. C'est vraiment, on peut aller à la chasse aux bisons ou aller chercher des buissons qui font des framboises quelque part ou des noix. C'est une expédition, on va marcher comme des fous pendant deux jours, puis après on revient à la base et là on ne bouge plus. C'est naturel, c'est normal. On ne parle pas de gens qui vont marcher les 10 000 pas tous les jours. Okay. Après, vous regardez les populations aussi traditionnelles aux États-Unis, genre les Amish, ces populations-là, ils sont aussi, ils sont dans 15 000, 20 000. Vous regardez les populations animales, les cerfs et tout ça, ils sont aussi dans les 15-20 000. Vous regardez les vaches si on les laisse, ou les autres animaux, même domestiques, marchent aussi dans les 10 000 et quelques. Donc en fait, c'est complètement naturel. Et c'est pour ça que je ne suis pas mes collègues qui disent qu'il ne faut pas mettre en avant le 10 000 parce que c'est un truc. Oui, c'est un chiffre, ok, mais ça correspond assez bien, c'est même relativement la fourchette basse de ce qu'on est programmé pour faire. Après, la population, elle est tellement en dessous que beaucoup de gens, notamment à l'OMS, disent qu'il faut ce qu'ils appellent des objectifs réalisables pour pas décourager les gens, pour qu'ils puissent y arriver. Donc maintenant, la recommandation réalisable, c'est 150 minutes par semaine. C'est peu, hein. Donc, vous pouvez faire le calcul. Moi, je suis fatigué, j'arrive plus, mais c'est pas beaucoup. Voilà, je sais pas si...
Ça, c'est difficile de revenir. Moi, je viens du Chessin. Mes grands-parents étaient paysans. Ah. Ils faisaient la fin du monde. Donc, ils partaient de la plaine. Hein,
oui.
Ils traversaient la plaine de la Réville. Ils montaient dans la vallée de Zasque et puis ils montaient à la plage. Donc, faites le calcul. Et tout ça, ça se faisait à pied.
C'est quoi, 20-25 km, quelque chose comme ça.
Mais il faut la saison.
Oui, une saison, mais tous les jours, ils suivaient.
Ouais, ça bouge les troupeaux après. Ils n'étaient pas enfermés.
Non.
Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai vu des gens qui font la transhumance, c'est vrai que c'est très impressionnant.
Et en Valais,
en Espagne, j'en ai vu, ouais.
Il y a des gens qui voyagent à pied aussi. J'ai connu quelqu'un, enfin le frère de quelqu'un qui est parti de Saint-Serre au-dessus de Lyon, il va en Inde à pied.
Alors c'est vrai que moi j'ai exclu ces gens-là, parce que c'est un autre sujet. Mais il y a tous ceux qui font Compostelle.
J'ai lu Sylvain Tesson, c'est magnifique ce qu'il écrit, aussi de se dire qu'on peut voyager à pied.
Ben, les gens l'ont toujours fait. Hein, même la disposition des villes, des villages, ça a à voir avec ça. Nyon, c'était un endroit où on changeait les chevaux, mais avant ça, c'était un endroit où on s'arrêtait. Mie, c'est l'endroit où j'habitais quand j'étais plus jeune. Ça s'appelle comme ça, parce que c'est à mi-chemin entre Genève et Nyon. Et donc, les gens, ils marchaient, puis ils connaissaient les endroits, ils savaient où ils pouvaient s'arrêter. Ouais.
Et dénivelé, c'est quelque chose qui est rédhibitoire des fois, ou ça vous avez... Parce qu'en Genève-Lausanne, par exemple, il y a déjà des vraies différences.
Très bonne question, ça.
Et typiquement, moi, à Lausanne, je ne marche pas.
Non, alors, la grande différence, c'est qu'à Lausanne, il n'y a pas de vélo, quasiment. Il y a 0,5% de part modale de vélo, alors qu'à Genève, je crois que c'est autour des 5 ou 6. Mais de toute façon, c'est des parts modales très faibles pour le vélo. Donc le vélo, il est très faible en Suisse comparé aux Pays-Bas, au Danemark, au nord de l'Allemagne, etc. Donc c'est surtout ça. Mais là, il n'y a pas tellement plus ou moins de marche à Genève et à Lausanne. Beaucoup de gens, enfin non pas beaucoup de gens, certaines personnes me disent que c'est super important la pente. Mais moi, je n'ai pas trouvé ça tellement dans les gens que j'ai interrogés, sauf quelque chose de très important. Vous connaissez le petit chêne qui est derrière. Les gens n'aiment pas le petit chêne. Et là, c'est un des endroits où j'ai voulu recruter des grands marcheurs. Je me suis posté là-bas. Bon, des heures absolument en pure perte. Et j'étais très étonné. J'étais sûr que je trouverais plein de grands marcheurs dans le petit chêne. En fait, ils l'évitent. Ils préfèrent prendre une des grandes avenues bourrées de bagnoles, l'avenue de la gare Ruchonnet, plutôt que le petit chêne. Presque tous. Et même un qui marche tout le temps, celui qui court un kilomètre par jour, tout habillé pour aller au travail, il prend les transports publics sur un seul trajet, c'est entre le flon et la gare, pour éviter le petit chêne. Donc, il y a quelque chose. On peut s'arrêter ? Merci beaucoup. Merci.